19h, vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1.
Je crois que ce 8 avril sera une étape importante, quoi qu'il arrive, sur le chemin de l'ultime liberté.
L'ouverture à l'Assemblée des discussions sur la proposition de loi ouvrant le droit à une fin de vie libre et choisie, portée par le député Olivier Falorni, qui a été ovationné à l'ouverture des débats.
Elle a donné à la France 4 présidents de la République et 9 chefs de gouvernement. L'ENA va être supprimée.
Un acronyme symbole d'un ascenseur social à deux vitesses, elle sera remplacée par une nouvelle école de la fonction publique. Jean-Luc Mélenchon ne comprend pas bien le timing.
Le Brésil, confronté à une situation sanitaire incontrôlable, pourtant le président Bolsonaro refuse toujours de prendre des mesures.
Une attitude criminelle qui pourrait compromettre tous les efforts pour éradiquer la pandémie, nous dira Didier François.
Au sommaire également ce soir, les mesures prises pour protéger les vignobles du gel ont entraîné une pollution de l'air, visible à l'œil nu, notamment dans la vallée du Rhône.
Et puis un billet pour les quarts de finale de la Coupe de France de foot. En jeu ce soir, le Red Star, club de national face à Lyon. Le coup d'envoi vient tout juste d'être donné. On sera sur place à la fin de ce journal avec Cyril de la Morinerie.
La météo avec Anissa Haddadi. Des nuages, mais de la douceur aussi au programme demain.
Oui, on ne peut pas tout avoir, hein, Julien, effectivement. C'est le retour des nuages et de la pluie demain sur une grande partie du pays. Mais bonne nouvelle, le thermomètre va nettement grimper demain et dépasser même les 20 degrés. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Depuis cet après-midi, l'Assemblée examine donc une proposition de loi sur la fin de vie portée par le député Olivier Falorni, sujet ô combien sensible, on a encore pu le constater dans l'hémicycle tout à l'heure.
Oui, tellement sensible, Hélène Terzian, que ce débat n'a quasiment aucune chance d'aboutir.
Et oui, parce qu'une avalanche d'amendements déposés par une poignée de députés LR vient faire barrage à ce texte. À la tribune, le député Olivier Falorni a très vite dénoncé cette obstruction parlementaire face à une pile de 4000 amendements.
Aujourd'hui, le visage de l'Assemblée nationale, il est là, devant moi. Ce sont ces 4000 amendements. Ces 4000 amendements, mes chers collègues, ces feuilles, elles n'ont qu'un but, d'empêcher l'Assemblée nationale, d'empêcher les représentants de la nation.
Ovation, on l'entend dans tous les rangs de l'hémicycle, puisqu'on le sait, plus de 272 députés de tous bords politiques soutiennent ce texte. De manière apaisée, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a salué les députés qui se sont emparés du sujet, mais préfère à cela une meilleure application de la loi Claeys-Leonetti. Le ministre estime que ce débat nécessite plus de temps. Plus tôt dans la journée, l'exécutif a suggéré qu'il s'agissait d'un sujet de campagne présidentielle, ce qui est loin de convaincre la députée LFI Caroline Fiat.
Non, nous voulons voter aujourd'hui, nous ne voulons pas attendre. Pourquoi en faire un sujet présidentiel alors qu'aujourd'hui c'est un sujet législatif? Ne nous laissons pas retirer ce sujet aujourd'hui.
Mais on l'a compris, avec plus de 4000 amendements à examiner d'ici minuit, sauf énorme coup de théâtre, la course contre la montre est déjà perdue d'avance.
Hélène Terzian, merci à l'Assemblée nationale.
Comme Europe 1 vous l'annonçait dès ce matin, Emmanuel Macron s'apprête à acter la fin de l'école nationale d'administration, l'ENA.
Elle sera remplacée par une nouvelle école, l'ISP, l'Institut du Service Public. Le chef de l'État souhaite ouvrir à de nouveaux candidats les grands corps de l'État qui administrent aujourd'hui le pays, dont les plus connus sont l'inspection des finances, le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Il veut attirer des profils plus variés venant des universités et plus uniquement de Sciences Po.
Et pour la formation, un nouveau tronc commun sera dispensé à tous les hauts fonctionnaires pour les confronter davantage aux nouvelles réalités du terrain. Enfin, Emmanuel Macron s'attaque à la réforme des carrières en encourageant les mutations, en cassant les logiques de corps et de rente à vie.
Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a bien du mal à comprendre pourquoi le président choisit ce moment pour faire cette annonce.
Depuis quand ça devient un sujet de réformer l'école nationale d'administration? Là, il s'agit de la supprimer. C'est de la guignolade pour amuser l'opinion publique, l'occuper à des débats sur des questions qui n'ont pas lieu d'être. Je vous signale qu'à l'heure à laquelle on parle, tout le monde se demande avec angoisse ce qu'on va devenir, aussi bien côté bazar à l'école dans l'éducation nationale, chaos dans la vaccination et des vagues de masse de licenciements. Et c'est le moment que le chef de l'État trouve pour dire « Alors, vous voulez, on va jeter des pierres aux fonctionnaires ?» Alors, il faut changer ça, c'est clair. Il faut prendre d'abord les gens du rang, les gens du terrain, et leur permettre cette ascension jusqu'aux fonctions supérieures de l'État. Mais supprimer l'ENA, c'est juste pour qu'on se mette tous à aboyer contre les fonctionnaires au moment où ce sont les riches qui posent problème au pays et pas les fonctionnaires.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise.
Notre pays a dépassé ce jeudi les 10 millions de premières injections de vaccins contre le Covid-19. C'est une barre symbolique, mais encore très éloignée d'une protection totale face à l'épidémie qui remplit toujours plus les services de réanimation.
Oui, nous sommes à une semaine d'avance sur l'objectif que j'avais fixé. C'est ce qu'a dit cet après-midi le Premier ministre, Jean Castex, lors d'un déplacement dans un centre de vaccination à Nogent-sur-Marne, près de Paris. Les prochains caps sont désormais les 20 millions de premières doses à la mi-mai, théoriquement, puis 30 millions à la mi-juin.
Et si chez nous, on commence doucement à entrevoir le début du bout du tunnel, le Brésil, lui, est en train d'être terrassé par cette pandémie, sur le point de mettre à genoux le pays. 4000 morts par jour, déjà 340 000 victimes du coronavirus et des courbes qui s'envolent.
Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Le gouvernement de Jair Bolsonaro semble complètement débordé.
Oui, c'est le terrible constat que dresse l'Institut National Fiocruz, qui est un peu l'équivalent local de l'Institut Pasteur. Effectivement, l'économie de Covid-19 est totalement hors de contrôle, et cela sur l'ensemble du territoire brésilien. 66 800 malades décédés, rien qu'au mois de mars. Et les projections épidémiologiques prévoient plus de 100 000 morts à la fin avril. C'est un drame sanitaire d'une ampleur sans précédent. Le système de santé du pays est plus que saturé, incapable à ce stade de faire face sans une aide extérieure massive. Les taux d'occupation des services de soins intensifs dépassent les 90% dans désormais 17 États, sachant que le Brésil en compte 27 avec le district fédéral de Brasilia, la capitale administrative, qui est elle-même complètement submergée par la maladie. Des dizaines de malades, ils sont morts dans les couloirs des hôpitaux en attendant qu'il se libère un lit en réanimation. À Sao Paulo, les cimetières sont ouverts jour et nuit. On y creuse 600 nouvelles tombes chaque jour. C'est vraiment terrifiant. Et pourtant, le président Jair Bolsonaro s'entête dans sa négation du problème. Il n'a pas bougé d'un pouce sur sa position de départ, qui était que le coronavirus, finalement, ne présentait guère plus de dangerosité qu'une grippette. C'était son terme. Et il se refuse toujours à imposer la moindre mesure de confinement à l'échelle nationale. Il a même autorisé les rassemblements religieux sans geste barrière pour les fêtes de Pâques, profitant de l'occasion pour appeler le Brésil à retourner au travail. C'est absolument lunaire.
Au point que l'inaction des autorités fédérales brésiliennes commence à sérieusement inquiéter au-delà des frontières du pays.
Oui, parce que cette attitude totalement irresponsable met en danger les plans de lutte contre la pandémie qu'ont mis en place tous ses voisins d'Amérique latine et plus largement d'ailleurs tous les pays avec lesquels le Brésil continue à avoir des relations commerciales, des liaisons aériennes, enfin des échanges sans le moindre contrôle, alors que ces scientifiques ont déjà identifié 92 nouvelles souches du coronavirus qui circulent dans le pays et dont certaines, pas toutes heureusement, sont particulièrement virulentes, comme le variant amazonien, le fameux P1. Et donc oui, la crainte, c'est vraiment que le Brésil se transforme en une sorte de gigantesque réservoir de variants à Covid qui réinfecterait en permanence l'ensemble de la planète. C'est vraiment un sujet de préoccupation sérieux que va devoir traiter la communauté internationale.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h10, avant-hier soir dans ce journal, on vous parlait de la vive inquiétude des viticulteurs face à la baisse drastique des températures qui risquaient de faire geler leurs vignes. Ils nous expliquaient qu'ils avaient tout mis en place pour éviter le pire.
Et malheureusement, dans plusieurs régions de France, le pire n'a pas été évité. Et on découvre par ailleurs aujourd'hui que les mesures mises en place contre le gel ont entraîné une forte pollution. C'est notamment le cas dans la vallée du Rhône, Jean-Luc Boujon.
Effectivement, un voile grisâtre qui s'est développé dans toute la vallée du Rhône, grosso modo d'Avignon jusqu'à Lyon, où il était encore visible en début de matinée, explique Géraldine Guillot de l'organisme Air Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui mesure la qualité de l'air dans la région.
Ça a commencé assez tôt finalement dans la nuit, à partir de minuit 1h. Les agriculteurs ont dû passer une nuit assez terrible d'ailleurs. Et donc un voile grisâtre, voire même presque noir à certains endroits, qui est assez exceptionnel cette année, d'une rare ampleur, ce qui nous conduit donc à mettre en place une vigilance de pollution sur le bassin lyonnais et sur la vallée du Rhône.
Alors à l'origine de cette pollution, il y a les systèmes de brûlage destinés à protéger les cultures contre le gel. La nuit dernière, il a fait jusqu'à moins 5 degrés dans le secteur, d'où l'allumage de bougies ou de ballots de paille. C'est ce qu'a fait David Vial, qui cultive de la vigne et des abricots à Mercurol dans la Drôme.
C'est notre outil de travail, c'est notre gagne-pain. On essaye de sauver notre saison. Donc effectivement, il y a un gros nuage qui se dégage, mais c'est une fois dans l'année, voire deux. Après, on n'a pas bien d'autres moyens pour essayer de défendre. C'est vraiment de sauver notre saison, quoi.
Voilà, alors pour l'instant, personne n'a trouvé d'alternative pour lutter contre le gel. Elle procédait à d'ailleurs d'ailleurs été d'une efficacité assez inégale la nuit dernière. Seule consolation, il ne sera pas nécessaire cette nuit puisque les températures ne vont pas cette fois descendre aussi bas.
Les précisions de Jean-Luc Beaujon, correspondant d'Europe 1 en Rhône-Alpes. Les laboratoires Servier, reconnus coupables de tromperie aggravée et d'homicide et blessures involontaires dans le scandale du Mediator, confirment aujourd'hui qu'ils vont faire appel de leur condamnation.
Aux États-Unis, Joe Biden appelle à l'interdiction des fusils d'assaut pour les particuliers.
Oui, le président américain présente son plan pour lutter contre ce qu'il appelle l'épidémie de la violence par arme à feu, un plan limité. Mais il faut rappeler qu'on est aux États-Unis, aucun président n'a osé toucher à ce sujet tabou. Environ 300 millions d'armes à feu sont détenues par des particuliers américains.
Allez du sport au lendemain de l'exploit du PSG sur le terrain du Bayern Munich. Place ce soir à la Coupe de France.
Et oui, le Red Star, club de national, affronte l'OL en huitième de finale. Les joueurs de Saint-Ouen à domicile dans leur mythique Stade Bauer où vous vous trouvez en direct, Cyril de la Morinerie. La rencontre a débuté depuis une douzaine de minutes.
Exactement, 0-0 entre le Red Star et Lyon et ce stade mythique qui sera bientôt rénové en face j'ai des grues. J'ai un immeuble à droite où il y a beaucoup de supporters qui sont aux fenêtres. Ils ne peuvent pas aller bien évidemment dans cette enceinte en raison du coronavirus et des règles sanitaires, mais ils encouragent énormément leur équipe avec ce maillot vert du Red Star qui a remporté 5 Coupes de France dans une histoire plus d'un siècle de partage et d'exploits pour ce club qui reçoit Lyon. C'est le véritable événement. Ils font face pour l'instant aux Lyonnais qui n'ont pas eu d'occasion. Les Lyonnais de Jean-Michel Aulas, le président de Lyon qui est là parce que Lyon a été expulsé du podium. Il y a une pression plus importante sur Rudy Garcia, même s'il a dû faire tourner son effectif. C'est Pollerbeck qui est titulaire ce soir puisque Lopez est blessé dans les buts. Et puis il y a quelques absents comme Dubois, comme Cornet, Aouar notamment. Mais Depay, le capitaine, est bien présent ce soir sur cette pelouse. Que c'est un objectif prioritaire pour l'équipe lyonnaise. Voilà, 0-0 entre l'équipe de National, le Red Star, et les Lyonnais qui sont quatrième de Ligue 1. 12 minutes de jeu.
Merci beaucoup, Cyril de la Morinerie, en direct.
Merci
donc.
Merci Isabelle, c'était le journal d'Isabelle Millet, qu'on retrouve demain évidemment à la présentation du 18-20 à ce même micro. La météo, Anissa Dadi, un temps plus couvert au programme demain.
Oui, avec des nuages qui arrivent par la façade atlantique, le Poitou-Charentes, le Bordelais demain matin sont sous les nuages avec quelques petites averses. Pareil dans le sud, sur les Cévennes et sur le Massif central, là aussi on aura un temps couvert avec quelques gouttes. Au fil des heures, cette perturbation va avancer, toucher l'Île-de-France, la Normandie, la Bourgogne, le centre-val de Loire. En fait, il n'y a que sur la façade est qu'il fera véritablement beau demain. Les températures, encore quelques gelées matinales avec moins 3 à Charleville-Mézières, moins 1 à Belfort, 2 degrés à Rennes, 5 à Paris et 10 à Biarritz. Puis vous l'avez constaté, il fera plus doux, ça grimpe avec 12 degrés à Cherbourg, 14 à Brest et Lille, 16 degrés à Saint-Étienne, 17 à Lyon, 18 à Paris et 21 pour Bordeaux.
Merci ma chère Anissa, à demain 18h. 19h14, vous restez avec nous. Dans quelques secondes, on se retrouve avec nos invités pour le grand débat du Club des Idées sur le droit à choisir sa mort, pour ou contre l'euthanasie, on en parlera. D'abord la carte blanche, sur ce sujet d'ailleurs, de la philosophe Julia de Funès.
La Caisse d'Épargne vous présente la carte blanche. Caisse d'Épargne, vous êtes utile. Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien.
Non, c'est vrai qu'on avait besoin de prendre un peu de hauteur et on voulait vous donner la parole et avoir votre approche philosophique avant d'entamer le débat avec nos invités. Alors, l'examen a eu lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale de cette fameuse proposition de loi sur l'euthanasie et sur les arguments des deux camps, dont certains vous semblent d'ailleurs, pour commencer, contradictoires.
Oui, alors je ne suis pas sûre de vous apporter beaucoup de hauteur sur des sujets si difficiles, mais enfin, je vais, avant d'évoquer une certaine contradiction, je reviens juste sur les deux positions que je schématise ici, faute de temps. Mais en gros, ceux qui militent contre la législation sur la fin de vie, contre l'euthanasie, prennent généralement pour argument majeur que la vie humaine est sacrée, ce qui revient à dire que ce n'est pas à nous de juger de sa valeur et d'y mettre un terme. Et ceux qui militent pour, c'est très schématique, mais vraiment je résume, mais ceux qui militent pour la législation sur la fin de vie invoquent généralement l'argument opposé. Toutes les vies humaines ne se valent pas, seul celui ou celle qui vit cette vie est en position de juger de sa valeur et d'y mettre éventuellement un terme. Autrement dit, la vie en tant que telle n'est pas sacrée pour le deuxième camp.
Vous semblez donc plus favorable à la seconde position, pourquoi ?
Alors, pour plusieurs raisons, évidemment, c'est un sujet complexe, mais j'en donne juste une ici, qui est que sacraliser la vie est le moins bon moyen de la défendre. En sacralisant la vie, paradoxalement, on la dévitalise, on la rend mortelle. On en a eu un exemple cette année, dans une moindre mesure, évidemment. Je compare pas nos vies à celles d'un souffrant incurable en fin de vie. Mais depuis un an, on voit très bien qu'en faisant de l'état de santé, de la vie, dans son sens purement biologique, le sommet des priorités, en la sacralisant, nos vies sont devenues pour tout le monde étriquées et oui, pour beaucoup invisibles. En somme, c'est mal aimer la vie que de la réduire au vivant, c'est mal aimer la vie que de redouter qu'elle s'achève ou qu'elle se risque, c'est mal aimer la vie que d'en faire le sommet des priorités au détriment du charme de l'existence. C'est donc, paradoxalement, c'est ça la contradiction, un désamour de la vie qui sacralise la vie. Voilà, entre autres, la contradiction oui, de tous ceux qui pensent la vie biologique comme une finalité en soi.
Merci.
Vous voulez peut-être une citation,
oui, allez,
Julien, parce
allez,
que vous aimez
j'aime
ça.
J'aime bien les citations. Merci.
Une dernière, d'accord. C'est de Mona Ozouf. La vie se passe, nos vies se passent à arbitrer entre des fidélités. Eh bien, je crois que la fidélité à tout ce qui fait l'agrément de la vie me semble plus vivifiante et vitale que la fidélité à la vie, bien souvent sinistre et mortifère.
Bah, vous voyez, vous êtes trop modeste, Juliette
bon,
Funès. Vous avez
mais c'est
réussi
là que vous allez prendre du recul.
Prendre
c'est maintenant que tout commence dans votre débat.
Absolument.
Je vais l'écouter attentivement.
Merci, Julia.
Merci, Julien.
Merci
à bientôt.
Pour carte blanche.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, 19h20, ce soir dans le Club des Idées, on s'intéresse donc à ce débat qui agite la société et l'Assemblée nationale aujourd'hui sur l'euthanasie. Faut-il permettre à des malades de choisir de mourir s'ils le souhaitent? C'est donc le sens de la proposition de loi du député Olivier Falorni pour changer les règles qui entourent cette question si sensible de la fin de vie. Est-ce une liberté nécessaire ou une transgression dangereuse? Eh bien, les Français, eux, y sont en tout cas largement favorables à cette liberté de choisir. On en parle donc avec nos invité Jean-Luc Romero, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. On en parle également avec Emmanuel Hirsch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay. Bonsoir Philippe Bataille.
Bonsoir.
On en parle également avec vous. Vous êtes sociologue, directeur d'études à l'ESS, auteur de « À la vie, à la mort, euthanasie, le grand malentendu » aux éditions Autrement et « Laisser partir, euthanasie, l'exception, maison des sciences de l'homme » édition sortie en 2019. Je voudrais pour commencer vous faire écouter cette fameuse proposition de loi qui est donc portée par le député Olivier Falorni, qui est simple et tout à fait claire. On l'écoute.
Il s'agit de permettre à toute personne majeure atteinte d'une maladie incurable, en phase avancée ou terminale et générant des souffrances inapaisables. Et c'est de permettre à une personne condamnée de pouvoir partir rapidement et sans douleur. Arrêtons cette hypocrisie de faire qu'on laisse mourir quelqu'un à petit feu. Ça peut durer plusieurs heures d'agonie, plusieurs jours, voire une semaine ou 10 jours.
Voilà, c'est un grand pas et un grand changement si cette proposition de loi était amenée à être adoptée, ce qui ne semble pas être le cas. On en parlera tout à l'heure pour des raisons aussi politiques. Mais ce serait un changement important, Jean-Luc Romero. Vous y êtes favorable ?
Oui, bien sûr. Enfin, ce n'est pas forcément le texte que la DMD aurait déposé, mais évidemment, c'est un changement parce que là, on met vraiment la personne en fin de vie au centre de la décision. On change de logique. C'est-à-dire qu'avant...
C'est la personne qui décide, pour elle-même.
Oui, parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est d'abord des lois qui mettent en premier plan les médecins. Par exemple, une sédation profonde et continue, vous pouvez la demander. Mais si l'équipe médicale et le médecin ne veut pas la faire, il ne la fait pas. Et c'est lui qui, en plus, la contrôle. Tandis que là, vous le demandez. Alors, il y a bien sûr des conditions. Hein. C'est pas, hop, vous demandez une euthanasie, on vous euthanasie. Il y a des... Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est vous qui demandez, les médecins vérifient si vous êtes dans les conditions de la loi, et si vous êtes dans les conditions de la loi, on vous l'accorde. Donc c'est vrai que c'est une vraie révolution. Et puis je veux le dire quand même, parce que d'abord les Français l'attendent, il va encore d'y avoir un sondage de l'IFOP qui nous dit que 93% des Français y sont favorables, et 89% sont favorables au suicide assisté. Je pense qu'il est enfin temps d'entendre les Français, parce que vous savez, les Français, c'est pas des militants de l'euthanasie, comme moi d'ailleurs. C'est des militants du choix et de la liberté. Ils veulent quoi? Ils veulent avoir des soins palliatifs accessibles pour tous. Et je rappelle quand même le grand scandale, parce que c'est quand même un peu fort de ce gouvernement de nous dire qu'il faut des soins palliatifs, alors que depuis 2 ans, il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs en France. Et puis les soins palliatifs, dans certaines situations, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il faut et l'euthanasie et le suicide assisté.
On y reviendra évidemment tout à l'heure. Sur cette proposition de loi très simple, encore une fois, Emmanuel Hirsch, vous êtes professeur d'éthique médicale à l'université, je le rappelle, Paris-Saclay. Le choix individuel, la liberté individuelle de choisir sa mort.
Vous savez que c'est une conquête. Vous savez que la première proposition de loi, elle est du 6 avril 1978. C'est une loi d'Henri Caillavé. D'accord ? C'est important. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on découvre la question. Et des gens comme Jean-Luc Romero savent très très bien qu'une personne comme moi a beaucoup évolué. C'est-à-dire j'étais dans une position très réfractaire à une légalisation de l'euthanasie, puisque j'étais plutôt partisan des soins palliatifs. Donc on a maturé, j'ai maturé. Mmh. Et aujourd'hui,
qu'est-ce
j'ai
que vous
d'autant
avez changé
plus maturé.
D'avis
je vais vous dire pourquoi j'ai maturé. Ouais. Parce que je trouve que la loi de 2016 est une mauvaise loi sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Quand Vincent Lambert est mort en 11 jours, il est mort. Mmh. C'est-à-dire l'intention, ce n'était pas qu'il survive, c'était qu'il meure. Alors que ce n'était pas une personne qui était en phase terminale, c'était une personne lourdement handicapée. Quand on sait que la sédation profonde et continue, c'est une euthanasie prolongée, indigne de la condition humaine, à un moment donné, vous dites, vous avez le choix, et c'est aussi le militantisme de la DMD, ayant un accès universel aux soins palliatifs, puisque c'est un droit, et permettons aux personnes qui ont maturé, comme moi, personnellement, j'ai maturé. Je ne sais pas si demain j'étais dans ces situations, si je préférais ceci ou cela. Il faut être très humble.
Mais donc Emmanuel Hirsch, c'est l'affaire Lambert qui vous a fait changer d'avis ?
Non, c'est que j'ai évolué, j'ai écouté les uns les autres. On évolue aussi dans sa vie. J'ai présidé pendant 3 ans l'Association nationale de la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Donc j'ai rencontré, et dans mes aventures humaines, c'est-à-dire dans mes rencontres avec des personnes, et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de vérité en soi. La vraie question, et c'est une question, on l'a souvent abordée, c'est est-ce qu'il fallait légiférer ou pas ? Oui, parce qu'on est dans un état de droit, et c'est en termes de droit qu'on s'exprime. Mais un point qui, pour moi, est toujours un peu litigieux dans l'euthanasie, est-ce que c'est une pratique médicale ? Est-ce que c'est vraiment au médecin ? C'est une question que je me pose. Est-ce que c'est un acte médical ? C'est-à-dire, est-ce que ça ne brise pas...
C'est l'une des raisons, Emmanuel Hirsch, pour lesquelles... les médecins, pour certains, ils sont opposés.
Oui, mais il y a une clause de conscience. On parle de clause de conscience.
Je vais jusqu'au bout, y compris l'ordre des médecins, avec ce discours qui est de dire notre métier est d'aider à vivre et de ne pas donner la mort.
Oui, alors c'est le laisser mourir par rapport au faire mourir. Vous savez, on n'est plus dans les disputations de la belle époque. Je pense que les choses elles ont évolué. Il y avait, je termine là-dessus parce que je trouve que Philippe Bataille dans toute son œuvre a été très très précis par rapport à ces questions y compris sur le terrain. Mais il y a une évolution pour moi fondamentale entre la loi de 2005 et puis la loi de 2016. La loi de 2016 c'était une loi transitoire, on savait très très bien qu'elle inaugurait la question de l'euthanasie et s'il n'y avait pas eu la manif pour tous, c'était un engagement de François Hollande, on ne serait pas en train d'en débattre. La vraie question maintenant c'est l'accompagnement, l'encadrement et je trouve que la proposition actuelle à CERN parfaitement les enjeux. Il faudrait être très délimitatif, j'allais dire, dans l'application pour que les personnes vulnérables ne se sentent pas assujetties à un modèle qui serait une norme, c'est-à-dire la mort par euthanasie.
Alors, avant de vous donner la parole, Philippe Bataille, je voudrais simplement vous faire partager un témoignage d'un monsieur que j'ai reçu ici à ce micro. Il s'agit de Denis Panier, qui est le mari de Paulette Guinchard, ancienne secrétaire d'État de Lionel Jospin, notamment, qui a décidé de partir à l'étranger pour mourir grâce au suicide assisté. Il s'en est exprimé à ce micro et je vous propose d'écouter ces quelques mots.
Quand vous avez une terrible maladie et vous savez parfaitement où elle conduit, c'est surtout la déchéance qu'elle a voulu éviter. Elle ne voulait pas se retrouver dans un lit sans pouvoir bouger une partie de son corps. Elle savait très bien où elle allait, donc elle ne voulait pas en arriver là.
Voilà, elle ne voulait pas en arriver là. C'est un témoignage fort et il y a beaucoup, beaucoup de Français qui partent ainsi à l'étranger pour se faire mourir, Philippe Bataille.
Oui, c'est un témoignage fort, incarné. Paulette Guinchard est décédée ce 4 mars 2021 en Suisse. Et c'est une indication, y compris par rapport à la discussion dont je voudrais souligner l'importance qu'elle soit apaisée. C'est peut-être ça l'avancée des 20, 15... Voilà, ou des 3-4 lois et de tous ces débats, c'est de pouvoir arriver aujourd'hui.
C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, elle n'est pas très, très apaisée, cette discussion, mais on en parlera.
Oui, mais oui, c'est l'actualité, mais ça ne devrait pas se passer comme ça. Parce que précisément, on est arrivé aujourd'hui à trouver par le droit des malades, mais aussi par la médecine, cette autre phase du serment d'Hippocrate, qui est le non-abandon de son patient dans des situations, et c'était l'entrée de votre émission sur liberté et transgression, c'est une question de liberté individuelle et de transgression collective que nous devons penser ensemble au nom de la solidarité de tous autour d'un seul. Et ça, c'est un exercice de la loi difficile qui ne peut se faire que par des droits. Après, les conditions, voilà. Oui. Mais nous sommes arrivés à ce moment du tous pour un.
Philippe Bataille, qu'est-ce que vous répondez à Michel Houellebecq, qui a fait un édito, assez surprenant d'ailleurs, il prend assez rarement la plume pour s'exprimer sur un sujet de société, à part quand il fait des livres, quand il publie des livres. Une civilisation qui légalise l'euthanasie, dit-il, perd tout droit au respect. Qu'est-ce qu'on répond à cela? Qu'est-ce que vous répondez à cela?
Je pense que justement, c'est une incivilité en soi, cette expression et cette rubrique, cette prise de parole d'opinion. C'est un cavalier seul, on reconnaît Michel Houellebecq, un électron libre, une particule élémentaire qui ne tient pas compte du collectif et de la capacité du collectif, encore une fois, à s'assembler pour se pencher sur un seul.
Il y a plusieurs philosophes qui sont sur cette ligne, il y a notamment Luc Ferry aussi qui a pris position en ce sens. Vous réagirez dans quelques secondes.
Luc Ferry, pas dans le même sens que M. Houellebecq.
Non, à l'euthanasie, a-t-il dit. Vous réagirez dans quelques secondes. 19h29, on est contraint de marquer une première pause. On se retrouve dans un instant avec nos invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, la suite du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse à ce débat donc, qui agite la société et l'Assemblée nationale aujourd'hui sur l'euthanasie, après la proposition de loi, notamment du député Olivier Falorni. On continue d'en parler. Et je voudrais donner la parole à Julien Ravier, qui est avec nous par téléphone, député LR des Bouches-du-Rhône, de la première circonscription de Marseille. Alors, Julien Ravier, vous faites partie de ceux qui sont opposés à cette proposition de loi. D'abord, expliquez-nous en quelques mots clairs pourquoi.
Écoutez, en fait, je suis opposé avec un grand nombre quand même de collègues de tous bancs de cette Assemblée à cette proposition de loi. D'abord sur la forme et ensuite sur le fond. Et comme le disait Victor Hugo, la forme, c'est un peu le fond qui remonte à la surface. Sur la forme, en fait, aujourd'hui, on nous propose un texte qui concerne en fait une légalisation de l'euthanasie, purement et simplement, dans un contexte de crise sanitaire qui est totalement catastrophique, où les soignants se battent aujourd'hui pour combattre des vies. Donc je trouve que c'est d'abord indécent, et ça a été rappelé dans l'hémicycle.
Oui.
Deuxième élément sur la forme, la procédure législative, le véhicule législatif qui est choisi. On est sur une proposition de loi d'initiative parlementaire,
sur
et donc on
fond,
va avoir un
plaît.
Débat...
Sur le fond, Julien Ravier, c'est un sujet suffisamment grave pour qu'on vous entende sur le fond. Sur le fond.
C'est un sujet qui est suffisamment grave, sur lequel on a besoin d'avoir un large débat, des auditions, quelque chose de documenté. Or, aujourd'hui, on nous propose simplement une après-midi de débat.
Oui.
Sur le fond, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de mandat clair des Français. On a une bataille de sondages, soi-disant 96% seraient pour l'euthanasie. Moi, j'ai un sondage où c'est 24% des Français qui seraient pour l'euthanasie et 55% qui sont pour l'accompagnement des soins. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en France, on a une loi, la loi Claes-Leonetti de 2016, qui concerne les soins palliatifs.
On l'a rappelé.
Voilà.
On a entendu
qui est en fait une loi, une loi qui est particulièrement bien faite. La difficulté, c'est que cette loi, elle n'est pas appliquée sur la totalité du territoire. C'est une loi qui vous permet de vous accompagner à mourir.
Oui.
Sans souffrance physique ni psychique.
Oui, c'est pas tout à fait la même chose que la proposition de loi du député Falorni. Vous restez avec nous, Julien Ravier. On est aussi en ligne avec Jean-Louis Touraine, parce que ça, c'est aussi une bataille parlementaire qui est en train de se jouer en ce moment. Vous êtes député LREM du Rhône, professeur de médecine. Vous êtes favorable à cette proposition de loi. Que répondez-vous à Julien Ravier ?
Qu'il nous tient un discours qui maintenant est démodé, puisque l'Assemblée nationale s'est prononcée par 256 voix contre 56, c'est-à-dire à une très très large majorité. Elle a repoussé tous les amendements de suppression, et donc les personnes qui voulaient empêcher cette évolution, ce progrès, cet humanisme qui est inclus dans la loi, eh bien ont perdu. Ils ont perdu, et donc cette loi va prospérer. Si ce n'est pas, bien entendu, d'ici ce soir, ça va être dans les semaines qui viennent.
Oui.
Et cette loi va prospérer pour qu'enfin les Français aient en même temps l'accès à des soins palliatifs et une aide active à mourir. C'est une avancée humaniste très importante. C'est un droit des malades qui est acquis. Et il y avait un carteron de députés, dont M. Ravier, qui ont voulu faire de l'obstruction, qui ont voulu empêcher ça. Ils ont raté.
Bien.
Ils ont échoué.
C'est une information importante que nous n'avions pas,
Jean-Louis
Touraine.
C'est important. Ils ont échoué. Et les députés, dans leur grande majorité, ont entendu cette immense majorité de Français qui souhaitent qu'enfin, on se préoccupe du mal mourir français et qu'on devienne un pays où on peut être accompagné comme il le convient en fin de vie.
Merci infiniment Jean-Louis Touraine pour cette information très très importante et puis pour cette réaction. Je vais vous redonner la parole brièvement, Julien Ravier, simplement pour préciser, parce que c'est important ce que vous dites, monsieur le député, qu'une majorité des députés, peu importe leur bord politique, c'est assez rare pour être souligné, ont voté comme d'une seule voix. Et ça a donné lieu d'ailleurs à une ovation, une standing ovation à l'Assemblée nationale, à Olivier Falorni qui porte donc cette voix. Je vous propose d'écouter ce moment.
Aujourd'hui, le visage de l'Assemblée nationale, il est là, devant moi. Ces 4000 amendements, mes chers collègues, ces feuilles, elles n'ont qu'un but, d'empêcher l'Assemblée nationale, d'empêcher les représentants de la nation, d'empêcher les députés de voter ici, souverainement. Voilà ce que c'est. Voilà l'image que vous donnez.
Voilà, 250 députés, même un peu plus, qui acclament Olivier Falorni. Julien Ravier, avouez quand même qu'il y a une forme d'obstruction quand même de votre part. Vous êtes 5 députés à avoir déposé plus de 2000 amendements. 5 députés contre plus de 250 autres.
On aurait pu être beaucoup plus nombreux à en déposer. Ce que vient de dire Jean-Louis Touraine est totalement faux. Il vient d'avoir un amendement, une série d'amendements de 50 députés de suppression de l'article 1er. Et c'est cet amendement de suppression qui vient d'être repoussé par l'Assemblée nationale. Donc cette proposition de loi n'a pas du tout été adoptée. Et ça n'est absolument pas aujourd'hui la légalisation de l'euthanasie en France. Ce que nous avons demandé, bien, c'est qu'il y ait un débat, des états généraux, et qu'on puisse documenter le sujet, ce qui n'est absolument pas fait, parce que si aujourd'hui on vient à légaliser sur l'euthanasie, eh bien on va institutionnaliser un droit à donner la mort.
On a entendu
pas que nous souhaitons, ni les Français, ni nous.
On a entendu votre position. Merci infiniment, monsieur le député Julien Ravier, d'avoir été ce soir en direct pour commenter ces annonces dans Europe Soir. Réaction Emmanuel Hirsch.
Julien Ravier ne suit pas l'actualité. En juillet 2012 a été lancée une concertation nationale avec un rapport, le rapport Sicard, avec le Comité consultatif national d'éthique, le Conseil d'État. Donc la concertation a eu lieu, officiellement, d'une certaine manière. Il y a eu des conclusions. Il y a eu également, au moment des états généraux de la bioéthique, je ne sais pas si vous vous en rappelez, donc 2018, alors que ce n'était pas l'ordre du jour, les Français ont considéré que c'était la deuxième cause pour eux d'intérêt.
Oui.
Et d'une manière majoritaire, et regardez le site des états généraux, les Français étaient favorables. Ils ne sont pas favorables d'une manière inconditionnelle à l'euthanasie. Ils sont favorables à ce que leur liberté de décision, leur faculté de discernement, c'est toute la démocratie sanitaire qui a été inventée dans les années SIDA. Et donc, je ne suis pas pour ou contre, parce que personne ne sait, à titre personnel, comment il se situera quand il sera face à cette situation. C'est facile aussi d'en parler d'un point de vue théorique.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a des députés de différents bords qui sont d'accord entre eux, parce
cela
que ça
étant,
en appelle à l'intime.
Voilà, mais il y a l'intime conviction, mais personne n'est contraint non plus à faire l'euthanasie, d'une certaine manière, à pratiquer l'euthanasie ou à la subir. Non, la vraie question pour moi importante, c'est qu'il ne faut pas que les députés soient totalement hors sol. Et vous voyez, j'ai le même sentiment d'une indécence, si vous voulez, à porter aujourd'hui cette question, c'est-à-dire dans le contexte du Covid-19, avec 400 victimes à peu près chaque jour. Il y a quelque chose effectivement d'indécent. Mais il ne faut pas oublier que ces propositions de loi, celles dont on parle aujourd'hui, et puis celles de Jean-Louis Touraine, sont d'octobre 2017. Elles n'arrivent pas de nulle part, elles ont été construites, il y a eu de la concertation, les uns et les autres ont participé. Voilà, donc je trouve que c'est un peu du mépris vis-à-vis de la démocratie que dire que le débat n'a pas eu lieu.
On va avancer. Philippe Bataille, réaction également.
Oui, j'ajouterais, il y a aussi au moment des campagnes électorales et présidentielles, y compris les acteurs associatifs, ou comment dire, les chercheurs, les actuels, ces campagnes où tout le monde participe, il y a plusieurs fois la promesse faite de faire avancer la législation sur l'aide à mourir, ce qu'a fait d'ailleurs François Hollande lorsqu'il était élu. Et surtout, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne comprends pas la caricature que nous donne à voir éventuellement ce soir à l'Assemblée nationale, y compris à l'instant, avec des propos qui n'écoutent pas, y compris l'actualité, mais aussi nos échanges. Paulette Guinchard avait accès aux soins palliatifs. Elle a elle-même encouragé, dès 2009, la mise en marche des plans soins palliatifs.
Elle était opposée
à l'euthanasie, n'est jamais été militante. Et je souhaite surtout dire que les avancées de maintenant ne s'opposent pas à la sédation profonde et sans réveil. L'équilibre de la loi Claeys-Leonetti, il faut rester tout à fait en place. Ça n'est
les
pas
dispositifs
ça.
Vont s'additionner.
Il s'agit de mettre précisément en place le curseur qui permettra de mieux lire et mieux appliquer la loi Claeys-Leonetti qui, pour l'instant, ne se développe pas précisément parce qu'elle est heurtée par le soupçon de demande d'euthanasie ou de suicide assisté et de crimes à l'intérieur de l'hôpital, ce qui est exactement la position de Michel Houellebecq.
Bien, même chose Jean-Luc Romero, un petit mot de réaction à cette séquence et cet échange, et puis après on avancera, j'ai beaucoup de questions à vous poser sur la suite.
Mais moi ce qui me gêne dans ces parlementaires, on leur demande pas de dire s'ils souhaitent pour eux l'euthanasie, on leur demande qu'ils donnent une loi aux gens qui leur permettent de choisir. Emmanuel l'a rappelé à plusieurs reprises, on ne sait pas ce qu'on voudra à la fin. On est tous dans le doute jusque la dernière minute. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir des soins palliatifs qui soient accessibles pour tout le monde. Et de l'autre côté, parce que dans certaines situations, c'est nécessaire, où les gens le souhaitent, l'euthanasie et le suicide assisté. Et qu'on n'oublie pas cette notion de doute, parce que quand on les entend, et vous le veniez de le répéter, je vous rappelle que Paulette Guinchard, non seulement elle était contre, mais elle avait écrit des tribunes contre l'euthanasie. Et elle disait à quel point la loi Leonetti était fantastique.
Elle est allée elle-même,
elle a eu l'honnêteté de vouloir qu'on dise qu'elle l'avait fait alors qu'elle s'était battue contre cette loi. Donc je pense que les parlementaires devraient dans ce domaine faire extrêmement attention. Quant au choix, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus Emmanuel, moi j'ai vu mourir ma mère de la Covid. Hein, et ma mère, elle a mis 15 jours à mourir. Elle enlevait son masque sans arrêt, elle disait « je veux mourir ». Ça a été extrêmement difficile de faire accélérer les choses. Et je crois que beaucoup de Français ont vu un certain nombre de personnes âgées, comme ma mère, qui sont mortes dans des conditions terribles, de souffrances terribles, qu'on n'en voyait pas parce qu'on dit qu'il n'y avait pas de tri. Moi, au départ, quand on m'a annoncé que ma mère avait le Covid, on m'a dit « ah, mais elle n'ira pas à l'hôpital à côté, elle était dans un centre de long séjour, elle n'ira pas, elle est trop âgée, etc. » J'avais dit « bah, c'est ses convictions, c'est pas un problème. » Mais enfin, imaginez le choix aujourd'hui. Oui, oui. Parce que pour moi, c'est scandaleux, ça. Moi, on doit pouvoir choisir ce qu'on veut si on veut mourir
donc
le plus tard possible.
C'est une réponse à ceux qui disent « ça n'est pas le bon moment ».
Et puis écoutez, vous savez, le sondage qui vient de sortir de l'IFOP, hein, qui a été fait hier soir, nous dit que 87% des Français pensent qu'il est urgent que l'Assemblée nationale débatte de l'euthanasie. Les Français, ils ont vu des choses. Et ils savent aussi, aujourd'hui, parce qu'ils ont vu mourir dans des conditions difficiles, ils ont compris que pendant des années, on n'a pas mis l'argent pour la fin de vie. On s'occupe beaucoup du début de la vie, et tant mieux. Mais la fin de la vie, l'argent n'est pas là, la preuve. Et d'ailleurs, pourquoi les Belges ? Pourquoi les Hollandais ? Ils arrivent, on nous a dit, dès qu'on légalise l'euthanasie, il n'y a plus de soins palliatifs. Mais pourquoi, eux, ils ont des soins palliatifs accessibles pour tous ?
Alors, j'ai plein de questions à vous poser aussi sur la manière dont tout ça pourrait rentrer en application si cette proposition de loi était adoptée. On en parle juste après la pause, 19h42. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h44, on poursuit dans le Club des Idées notre grand débat qui agite l'Assemblée nationale aujourd'hui avec cette proposition de loi du député Olivier Falorni sur l'euthanasie. On continue évidemment d'en parler avec nos invités. Vous parliez tout à l'heure de ceux qui prennent position en ce moment aussi en faveur de l'euthanasie ou de ceux qui changent d'avis, qui évoluent. Et je voudrais à ce propos vous faire écouter Lynn Renaud, qui communique beaucoup en ce moment en faveur d'une loi justement sur l'euthanasie. Écoutez-la.
On choisit sa façon de vivre, on doit choisir sa façon de mourir. On ne va pas décider pour moi. Tous les jours, j'ai une lettre sur ce problème. Il faut que cette loi passe. Il faut qu'il y ait une loi pour l'euthanasie.
Pourquoi est-ce qu'on est si en retard, Philippe Bataille ou Jean-Luc Romero, je ne sais pas qui veut répondre, en France par rapport à nos voisins ?
Visiblement, aujourd'hui, on a des réponses. Il y a l'obstruction, l'opposition, il y a le contraire de ce qu'on est en train de commenter ici, la capacité à travailler ensemble, à évoluer. C'est ça. Donc on a
Ce débat, ça fait 20 ans qu'on en parle. Ça fait 20 ans que moi, je fais des débats à la télévision ou à la radio sur ce sujet. L'Espagne a voté mi-mars une loi autorisant l'euthanasie et le suicide assisté. Aux Pays-Bas et en Belgique, c'est le cas. Au Luxembourg, c'est le cas. En Suisse, c'est le cas. L'euthanasie passive est possible en Norvège, en Suède, en Suède, en Allemagne, en Autriche.
Plus rien, vous avez raison. Plus rien n'explique vraiment ce qui se passe en France. Il n'y a pas une explication, une variable. Il y a manifestement, c'est au Parlement que les choses se passent. Aujourd'hui, l'opinion, enfin voilà, y compris comment dire, les références personnelles, les évolutions, on a tout entendu, c'est un moment de blocage. Ça va tomber. Ça va tomber. Mais c'est idiot de se mettre dans cette situation. Mais plus rien formellement, fixement, n'explique.
Je me permets de te dire, l'erreur, c'est de parler d'une loi sur l'euthanasie. Il ne s'agit pas d'une loi sur l'euthanasie, il s'agit d'une loi sur la fin de vie. C'est-à-dire avoir des conditions
c'est
de vie dignes.
C'est pas de sa loi, d'ailleurs.
Non, mais c'est pas le titre. Non, je précise.
Il
parce
a pas
que
mis l'euthanasie dans le...
C'est les mots liberté. Il n'y a qu'une loi où on parlait de l'euthanasie. Et je pense que c'est très préoccupant de prendre comme seule référence la notion d'euthanasie. En fin de compte, c'est la qualité d'une vie digne jusqu'au terme de l'existence. Et il y a des personnes, et on les rencontre, qui sont atteintes problèmes de maladies chroniques, de maladies qui sont des maladies graves ou de lourds handicaps, qui disent « je vais aller le plus loin possible si je sais que le jour venu, on m'écoutera », c'est-à-dire, c'est la même chose pour le suicide assisté, il y a des gens qui ont effectivement les produits, qui ne les prennent pas parce qu'ils savent que c'est possible. Donc c'est pas parce que c'est possible que les gens vont le demander. Mais je dirais également un point à prendre en considération, on a maturé par rapport à cette question. Je pense que la seule réserve que je fais, moi, c'est de médicaliser cette question. Voilà.
Oui. Mais, si... c'est
un paradoxe, parce que l'ADMD, je termine juste sur un point.
Elle a toujours été médicalisée.
Oui, mais là, elle est médicalisée.
Et elle est en train de sortir aujourd'hui. Et d'ailleurs, le débat que tu évoquais tout à l'heure, le débat citoyen, où les Français, alors que ce n'était pas dans le débat que voulait le président de la République, se sont emparés eux-mêmes du sujet, parce qu'on l'avait confisqué. Toutes les missions étaient des missions faites par des parlementaires médecins. Leonetti, qui a fait quand même 3 lois là-dessus. Et c'est ça. Et ça, on est en train de changer. Et puis l'influence de l'Église, qu'il ne faut pas oublier, parce que regardez quand même ce qu'a dit l'archevêque de Paris, qui est quand même très grave, parce que ça ne peut pas être un hasard. L'archevêque de Paris, tout le monde l'a oublié. Oui. Mais il a eu une première vie. Il était médecin pendant 35 ans. Et oser dire que pour vraiment effrayer, parce qu'on ne trouve plus d'arguments, qu'en Belgique, on euthanasie les enfants autistes, voyez qu'à un moment, ça va un peu loin et ils sont en train de perdre pied.
J'en reviens à mes exemples étrangers. Ouais. Le pendant, c'est l'Espagne, qui est un pays très catholique également, même plus catholique
mais
que la France.
Mais l'influence de l'Église en France est très importante.
Philippe Bataille.
Je rajoute un mot. J'ai moi le sentiment qu'on a aussi un débat interne à la médecine, au monde médical, à l'identité médicale, qui déborde en quelque sorte sur la société ou qui, par cette difficulté interne, avec effectivement des interdits, probablement aussi effectivement une référence au catholicisme à l'intérieur du monde médical ou du monde soignant, une capacité à donner en quelque sorte aujourd'hui une technologie de la mort et de l'accompagnement dans un idéal médical d'accompagnement et soignant qui a tout à fait sa place, mais qui ne saurait avoir l'exclusivité de la réponse ou des réponses attendues par les Français à des situations où également la médecine les entraîne et dont ils doivent sortir.
C'est vrai, mais il y a quand même un problème structurel à la France. Sur tous les débats de société, on voit que le politique et le législatif a toujours un temps de retard. Vous voyez bien que la société est toujours un peu en avance quand même. Alors, est-ce que c'est du progrès ou non? Ça, chacun jugera. Sur le mariage pour tous, sur l'IVG, sur la pilule, sur le vote des femmes. À chaque fois, les Français sont mûrs alors que le politique met du temps.
Oui, c'est pas parce que d'autres pays ont évolué dans ce domaine que c'est véritablement la référence. La vraie question vraiment importante, c'est les années 70 où la fin de vie s'est médicalisée. C'est-à-dire, c'est la réanimation. C'est là, non, mais c'est là, véritablement, qu'il y a la rupture.
C'est là
où les gens meurent à l'hôpital, meurent plus chez eux. C'est tous ces éléments, j'allais dire, à prendre en compte d'un point de vue sociologique. Voilà. Là, il faut démédicaliser et resocialiser. C'est-à-dire, ça devient de plus en plus une question politique. Ça veut dire aussi quelles sont nos solidarités. Ce n'est pas en des termes médicaux qu'il faut aborder la chose. Et il y a eu quand même une évolution très importante avec la loi de 2005, la loi Leonetti. C'est la mise en cause de l'obstination déraisonnable, premier point. Et d'autre part, la lutte contre la souffrance, y compris quand on abrège l'existence d'une personne. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, lorsque vous aidez une personne à ne pas souffrir et que vous leur permettez à ces personnes d'avoir une qualité de vie jusqu'au bout, vous intégrez dans la loi Leonetti déjà la possibilité que ça sera un acte qui aboutira à la mort de la personne. Donc je dis, arrêtons d'hypocrisie. Ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est surtout nos politiques. C'est-à-dire, moi j'ai évolué, je pense qu'il y a un certain nombre de parlementaires qui sont dans des postures et que ça ne résistera pas à l'épreuve des faits. Qu'ils aillent sur le terrain voir ce qui se passe.
Philippe Bataille, très court,
les Français ont obtenu le droit d'arrêter un traitement, mais pas d'être aidé à mourir. Comment fait-on?
Alors, Jean-Luc Romero, si on se projette et que cette proposition de loi est adoptée dans les jours qui viennent, si le gouvernement et le président de la République interviennent, comment ça se passerait dans les faits?
Dans les faits, c'est vrai qu'il va falloir évidemment des textes réglementaires, parce que là, c'est un texte qui est quand même assez généraliste, même s'il prévoit beaucoup de choses, notamment sur les directives anticipées qui deviendraient opposables.
Elles le sont déjà.
Non, elles sont contraignantes.
Oui, non, opposables.
C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'un médecin peut estimer qu'elles sont manifestement inappropriées.
Dites-moi, Jean-Luc Romero, si j'ai bien lu, j'essaie de simplifier pour nos auditeurs et nos auditrices.
C'est pas simple.
On est atteint d'une maladie incurable, on est en grande souffrance.
Oui.
On a sa conscience, on est en capacité d'exprimer un avis et une opinion, on décide de mourir, soit on peut le faire soi-même et on active la poche avec le produit létal, quelqu'un le fait pour soi.
Il faut d'abord qu'il y ait une autre étape, c'est-à-dire l'étape de vérifier si vous êtes dans ces conditions. Vous n'allez pas aller à la pharmacie chercher un produit pour mourir. Il va falloir, alors dans la loi, moi je souhaitais 2 médecins, c'est 3 médecins, vont vérifier d'abord si la personne a sa capacité. Parce que bon, si c'est rien que le médecin de famille, il peut être influencé, etc. Et là, il y aura 2 autres médecins qui vont vérifier que vous n'avez pas d'influence extérieure, que ce n'est pas votre famille qui vous force à mourir. Oui. Et, après, vérifier bien sûr si vous êtes dans les conditions de la loi. Et après, il y aura un délai.
Ça se passera qu'à l'hôpital? Dans des maisons spécialisées ou à domicile?
Pour l'instant,
aussi.
Rien n'est prévu, mais ça pourra se faire regarder en Belgique, aux Pays-Bas, ça peut se faire à domicile. Ça pourra se faire à l'hôpital, ça peut se faire à domicile. Et puis donc, à partir de là, soit des personnes souhaiteront avoir une euthanasie et recevront un produit, soit d'autres pourront prendre ou en tout cas actionner une perfusion eux-mêmes. Mmh. Mais tout ça va se définir parce que pour l'instant, évidemment, dans la loi, on n'a pas tous ces éléments. Mais en tout cas, c'est réglementé quant à, au contrôle.
Et dans l'idéal, entre la prise de décision du patient et le moment où on amène à mourir, où on meurt, quel serait le délai?
Le délai, ça dépend. Si vous êtes dans les derniers jours...
Selon les lois...
C'est pas 2 mois, c'est quelques jours.
C'est
2 à 3 jours. Enfin, dans la loi, dans le texte, il faut que la personne confirme qu'elle est d'accord. Ouais. Mais c'est 2 à 3 jours.
S'il y a urgence. Voilà. Sinon, ça peut être un peu plus long. Et à ce moment-là, parce que c'est pas vous vous réveillez pas un matin en ayant eu plein de douleurs, en vous disant « Oh là là, je vais mourir », on vérifie.
C'est
le fait qu'ils ont mis 3 médecins, c'est quand même déjà assez lourd. Il y a un délai. Et puis voilà, et puis après, on va évidemment préciser comment ça peut se passer.
Et on va évidemment suivre les débats à l'Assemblée nationale et puis les décisions éventuelles du gouvernement et du président de la République. On est contraint de s'arrêter. Merci infiniment pour cet échange et ce débat. On aura évidemment l'occasion d'en reparler, j'imagine, rapidement et pas dans 10 ans. Merci à tous les trois.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h55, les archives d'Europe Soir dans le Club des Idées. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Yes, we can.
Bonsoir Diane Chenouda.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Alors ce soir avec vous, le jour où... 8 avril 73, c'était la mort de Pablo Picasso, le génie de la peinture et de la sculpture, à Mougins, sur la Côte d'Azur. Il avait 91 ans.
Et oui, le maître de l'art moderne, Picasso, le peintre de Guernica et des Demoiselles d'Avignon. Sa disparition a évidemment suscité une émotion considérable et une pluie d'hommages, à commencer par ces Parisiens, interrogés par le reporter d'Europe 1 à l'époque, Pierre-Henri Marin.
C'est merveilleux, c'est toute une période, c'est des choses extraordinaires. Je pense que c'est un grand peintre qui nous quitte et qui a fait quand même école, qui a laissé beaucoup de choses derrière lui.
En Chine, il est grand peintre, il est grand artiste.
C'est une grande perte pour l'humanité, oui.
C'est un homme qui avait l'air tellement jeune et immortel, n'est-ce pas? C'est vrai, un point extraordinaire.
Hommage aussi de tout le gratin culturel de l'époque. Son grand ami Jean Cocteau salue le génie du maître espagnol.
Il a du génie dans sa poche et il en use, je vous le répète, comme d'argent de poche. Et ses boutades, c'est toujours vrai. Il faut toujours écouter ce qu'il dit. D'ailleurs, il m'intimide encore. Voilà 40 ans que nous sommes des amis intimes et son espèce d'œil terrible de torero m'effraie. Et chaque fois que je commis une faute, son œil me le prouve. Et il a toujours raison.
Le cinéaste Henri-Georges Clouzot, auteur du célèbre documentaire Le Mystère Picasso, rend hommage lui aussi à l'inventeur de génie.
C'est certainement le plus grand découvreur de formes depuis le Moyen-Âge. C'était absolument prodigieux la façon dont les formes naissaient sous sa plume ou sous son pinceau. C'était un homme passionné qui n'avait qu'une idée, c'était de se faire comprendre. Et rien ne l'agaçait autant que les gens qui disaient « on ne voit pas ce que c'est » parce que les enfants voyaient tout de suite ce que ça représentait.
Et puis ce témoignage très fort aussi du galeriste Alex Magui qui connaissait bien Picasso.
La mort de Picasso, ce n'est pas la disparition de Picasso. L'œuvre de Picasso restera dans tous les musées. Chaque chose de Picasso est grande, chaque chose survivra. Chaque jour, de 6h de l'après-midi, il rentrait dans son atelier et restait seul avec lui-même jusqu'à 4, 5 heures et 6 heures du matin à travailler. Moi, j'ai dit autour de moi, quand on est seul avec soi-même, on ne peut pas mentir.
Oui, preuve en est, Diane, le succès phénoménal des grandes expositions Picasso.
Oui, Julien, comme celle de 1966, qui avait attiré la foule au Petit et au Grand Palais. Et puis, je crois qu'on s'en souvient tous, hein, il y a eu cette exposition fantastique au Grand Palais en 2009, Picasso et les Maîtres, avec une fréquentation record. Plus de 780 000 visiteurs. Elle avait été ouverte 24 heures sur 24 les trois derniers jours. Et la fille de Picasso, Maya Picasso, avait été l'invitée exceptionnelle de Marc-Olivier Fogiel. Elle évoquait à l'époque l'ogre Picasso qui ne s'arrête jamais de créer.
Personnellement, je dis personnellement que mon père a certainement plus dessiné, peint, gravé que respiré.
Et oui, et voici ce qu'elle répond à cette question.
Comment vous vivez aujourd'hui cette énorme valeur qu'ont les toiles de Picasso? J'ai vu par exemple qu'il y a une toile qui s'est vendue à 93 millions de dollars, Le garçon à la pipe en 2004. Les prix, vous les trouvez justifiés, Maya?
Non, puisque pour moi, j'ai vu la rapidité avec laquelle ils étaient exécutés. C'est ça l'incroyable chose. Je ne parle pas de la peinture, parce que la peinture peut être faite sur 2, 3, 4, 5, 6 jours. Bon. Mais le dessin, c'est la rapidité avec laquelle ils l'exécutaient, c'était fabuleux.
Incroyable quand même. Alors on termine justement sur cette vente record de Picasso, l'un de ses chefs-d'œuvre, Les Femmes d'Alger, peint en 1955. Et bien la toile est partie en 2015 chez Christie's à New York pour la somme astronomique de 179 millions de dollars. Une vente éclair qui a duré 11 minutes.
Picasso, Femmes d'Alger, selling it here at Christie's, 160 million dollars. Brett, it's yours, sold.
Voilà, ce record.
Aussi vite qu'un dessin de Picasso,
ah ben,
si j'ai bien
absolument,
suivi.
Absolument, oui, vous avez bien suivi, Julien. C'est exactement ça. Et donc, évidemment, ce record à l'image de la démesure de l'ogre Picasso.
Merci, Diane, pour ce récit et ces archives. Ça fait du bien d'entendre aussi.
Elles sont très intéressantes.
Ouais, tous ces artistes.
Ce sont des trésors, absolument.
Merci, Diane. Europe 1.